me kes pastil.
Me kes pastil.
Oh, me kes pas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le 28 mai 2024. Aujourd'hui, on va commencer par faire un petit tour des mobilisations qu'il y a eu un petit peu partout en France suite au bombardement de Rafah par l'armée israélienne. Et on ira aussi notamment faire un tour du côté du Vigan où les lycéens sont mobilisés en ce moment même. Ils font un blocage de la cité scolaire André Chanson. On parlera aussi du groupe Total qui se porte très bien et dont l'AG avait lieu il y a quelques jours. Elle a été un petit peu interrompue par des militants écologistes. On parlera aussi des velléités justement de continuer à puiser du pétrole, notamment du côté du Brésil par le groupe Total. On va parler aussi de la réforme des droits de l'allocation au chômage qui vient d'entrer en vigueur. En tout cas, la loi a été votée. Et vous vous en doutez, c'est pas forcément des très bonnes nouvelles pour les demandeurs d'emploi. Avant tout cela, un petit tour d'agenda, peut-être un doublon avec ce qui a été déjà dit dans l'agenda, mais vu que ça a aussi de l'actualité locale, je me permets d'en mettre une petite couche. Ça nous vient de l'étuve, le local autogéré qui est à Pont-d'Hérault, où la cantine, vous le savez peut-être, il y a une cantine tous les jeudis. Eh bien, s'ils vous attendent donc ce jeudi pour régaler vos papilles avec un repas aux notes orientales, c'est de midi à 14h. Et tous les bénéfices de cette cantine qui est à prix libre, eh bien, iront à l'organisation de la marche des fiertés féministes, trans, pédégouines, intersexes, bipans, etc. Ce qu'on appelle plus communément LGBTQIA+. Une marche des fiertés, donc pour ne pas dire pride, mais c'est un petit peu le pendant en francophone de ce type d'événement. Une marche donc dans le but de visibiliser toutes ces minorités sexuelles ou de genre. Et cette marche aura lieu au Vigan, donc le samedi 22 juin. C'est une première, donc c'est une date à ne pas manquer. Dès 11h du matin avec stand d'infos, spectacle, prise de parole, puisqu'il y a le marché, vous le savez sûrement, le samedi matin au Vigan. Et donc la marche sera ensuite, tout l'après-midi, ça partira du parc des Châtaigniers. Et puisqu'on est justement, ils ont un petit peu besoin de s'organiser et notamment de renflouer, j'imagine, une petite caisse. Il y a aussi une soirée en soutien prix libre, donc à la Petite Base, c'est ce jeudi 30 mai. Donc la Petite Base, c'est place de la mairie au Vigan, un local associatif. Et là, c'est des films qui vous seront proposés. Tout d'abord, l'hétérosexualité, ce mystère terrien. Figurez-vous que c'est un documentaire animalier qui date de 2012, qui dure 25 minutes. Il y a un autre documentaire de 2007 qui s'appelle « L'ordre des mots », qui est basé sur des portraits de personnes trans et intersexes et leur combat contre les normes de genre. Ça, c'est un documentaire de 1h15. Le rendez-vous, c'est donc à la petite base au Vigan à 19h30 pour discuter, grignoter et ou boire un coup. La projection commencera donc à 20h30 et c'est donc prix libre ou gratuit, mais vous l'aurez compris, tous les bénéfices ainsi que ceux du bar iront pour donc l'organisation de cette journée des fiertés LGBTQIA+, du 22 juin, au Vigan. On revient donc à ces mobilisations qui ont eu lieu hier un petit peu partout en France, mais aussi dans le monde, où des milliers de personnes sont descendues dans les rues à Paris ou d'autres villes pour crier leur colère contre le génocide en cours à Gaza. Cela au lendemain donc des bombardements, notamment sur des tentes de réfugiés à Rafah dimanche soir par l'armée israélienne. Comme toujours, l'État français a déployé de son côté un dispositif policier massif destiné à empêcher toute manifestation. Mais visiblement, ça n'a pas fonctionné puisque, par exemple, ce lundi à Paris, plus de 10 000 personnes sont parties en défilé dans les beaux quartiers avec une grosse énergie et plusieurs cortèges. Et tout cela a continué malgré le déluge de gaz lacrymogène et les violences policières qui s'en sont ensuivies. L'ambassade des États-Unis a été approchée, un McDonald's pris sur cible, des drapeaux palestiniens hissés en haut d'immeubles. À 23h hier, d'après le média en ligne Contre-Attaque, en tout cas, la soirée continuait, le défilé continuait, toujours pourchassé par une des forces de police qui n'arrivait pas à assécher cette énergie débordante de la soirée. En province, comme on dit, des rassemblements ont été notés à Pau, à Nantes, à Strasbourg ou à Grenoble. Et à Montpellier, hier aussi, plus d'un millier de personnes se sont retrouvées dans les rues après un appel qui a été diffusé dans la journée pour un rendez-vous à la Comédie. Ces bombardements étaient, pour les organisateurs du rassemblement de Montpellier, perçus comme un bras d'honneur à l'arrêt de la Cour internationale de justice, qui a ordonné à Israël de cesser l'attaque contre Rafah, ainsi qu'au mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre de Benjamin Netanyahou. La mobilisation d'ailleurs en faveur de la Palestine continue puisque ce vendredi 31 mai à Montpellier, un meeting de soutien au peuple palestinien est organisé à l'occasion des 24 heures des quartiers populaires contre le génocide. Et pour une fois, ce n'est pas à la Comédie, mais c'est au Grand Mail dans le quartier de la Paillade à 18h. Il y aura des militants palestiniens, de Marseille aussi, et le groupe de juifs anti-sionistes Tzedek, dont la présence dans certains médias a été salutaire depuis tout le début de cette crise. Et pour le samedi, une manifestation partira à 16h des Hauts de Massane. Bon, je le rappelle au cas où vous soyez vraiment, vous étiez un petit peu isolé ces derniers jours, mais depuis le 6 mai, Israël a entamé une offensive terrestre contre Rafah en s'emparant du côté palestinien du point de passage terrestre qui sépare Rafah de l'Égypte. Cette opération de l'armée israélienne a causé la fermeture du poste frontière, donc, et cela interdit maintenant le passage des blessés pour recevoir des soins ou l'entrée de l'aide humanitaire qui se fait déjà bien rare. Cette attaque israélienne a contraint au moins 810 000 Palestiniens à fuir Rafah, qui accueille environ 1,5 million de personnes, dont 1,4 million de déplacés, qui avaient déjà été contraints de quitter d'autres régions de la bande de Gaza. Et donc voilà, encore des bombardements qui font continuer de gonfler. Eh bien, le mécontentement, c'est un mot un petit peu gentil, envers la politique israélienne et tous ses soutiens. On part au Vigan, tout de suite, dont nous avons reçu un petit coup de fil en fin de matinée. Les lycéens bloquent en effet l'entrée de la cité scolaire André Chanson depuis les premières heures ce matin, en solidarité avec le génocide et les massacres en Palestine, mais pas que. Vous allez pouvoir l'entendre tout de suite, puisqu'on a, on a enregistré notre petite conversation. C'était il y a un peu moins d'une demi-heure. Le Vigan est avec toi, Gaza !
Le Vigan est avec toi, Gaza ! On s'est mobilisé devant le lycée André Chanson, et donc là, on est pas mal. On y est depuis 8h30, un truc comme ça, ce matin. On a mis, on a bloqué le lycée, on a mis des pancartes et tout ça. On se bat pour les génocides en général, mais pour la Palestine, l'Arménie, la Syrie, le Congo, le Rwanda, voilà.
Bonjour. Alors oui, voilà. Donc pour le blocage, on a procédé, on a mis des poubelles, on a mis des barrières. Donc il y a des cartons avec plein d'écriteaux, etc.
Et du côté de l'administration du lycée, comment ils ont pris ça?
Très mal, parce qu'en fait, ils avaient prévenu... en fait, si vous voulez, quelqu'un a prévenu la police, voilà, par rapport au blocus. Alors que c'était quelque chose d'assez secret, etc. Et enfin, les flics, ils ont vraiment informé le proviseur et ils étaient là. De base, il y en avait à 7h du matin qui devaient être là pour commencer à préparer et à bloquer, en attendant que les autres qui prennent le bus, par exemple de Gange ou quoi, comme dans mon cas, pour venir et me faire le regroupement. Donc voilà, comme ils étaient là. Alors par contre, il y avait vraiment 7 policiers, gilets pare-balles, tout ce que vous voulez, 2 voitures, bombes lacrymo aussi également. Du coup, on était sur le côté du lycée, on n'avait pas le droit de mettre un pied dans le lycée. Ça nous était interdit avec les pancartes. Et voilà, on était libre d'aller en cours, mais pas de manifester, même devant le lycée. Donc ensuite, on est parti. On était en groupe environ de 30 ou 40 élèves, ouais, 45 élèves environ. Et on est parti du côté des Castas, vous voyez où c'est ?
Tout à fait.
Voilà, on est parti du côté des Castas, on a récupéré des poubelles, des barrières, et on a fait le tour du lycée par l'arrière. On est passé par l'internat. Et en fait, on revenait, on a récolté tout ce qu'on pouvait. Et en fait, ils nous ont suivis avec leur voiture banalisée derrière. Et voilà, et nous en fait on faisait exprès de ralentir et ceux qui étaient devant avec les poubelles ils se sont dépêchés. Puis après on est arrivé, on a mis le maximum de poubelles devant, ils nous couraient après pour nous arracher les poubelles et tout ce qu'on avait.
Et vous avez quand même réussi du coup à installer ce blocus?
Oui, on a réussi, on a mis 4 poubelles, oui c'est ça. Et on a continué, on continue à dessiner des écriteaux, sans dégrader ni rien, sur des bouts de carton qu'on a collés devant le lycée. Il n'y a aucune dégradation. De toute façon, tout ce qu'on voulait, c'était pas de dégradation, juste nos revendications, de la paix, et c'est tout ce qu'on cherchait.
Et les autres élèves, du coup, il y en a qui sont rentrés quand même, ou ils vous viennent vous voir?
Les autres lycéens rentrent par le collège et sortent par le collège.
Ok.
Désolée, attendez, je me décale un petit peu.
Vous pensez rester jusqu'à quand?
Nous, on compte rester toute la journée.
Et à part la police, l'administration du lycée n'est pas venue vous voir?
Si, au tout début, ils attendaient à 8h avec les 7 policiers, le CPE et ensuite le proviseur. Ils nous attendaient et ils étaient totalement contre, bref. Ils se fichaient de nos revendications. Les policiers et les gendarmes sont hyper condescendants. Oui, c'est bon, vous avez fait vos 2-3 petits trucs, c'est bon, si vous n'êtes pas agressif, on n'interviendra pas. Excusez-moi, mais nous, on est là pour la paix, on ne veut pas non plus dégrader. Et ils ont dit comme quoi c'était des gamineries qu'on faisait, etc.
C'est la première fois que vous organisez une action comme ça?
Alors, l'année dernière, il y en a eu une, je n'étais pas présente, mais il y en a eu une et ça s'était très bien passé aussi, c'était pour les retraites. C'est la première de l'année, en tout cas, celle-là. Merci beaucoup, au revoir.
Alors, je souhaitais effectivement partager quelques mots. Alors comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, effectivement nous avons un seul mot d'ordre, c'est la paix. Nous sommes pour la paix en globalité. La Palestine c'est un peu l'exemple le plus frappant, celui qui est le plus relayé par les médias. Mais nous souhaitons vraiment la paix, que les enfants arrêtent de mourir chaque jour, que les innocents cessent de mourir de faim et d'être dans des situations très compliquées à Rafah, mais également, comme l'avait dit Safia, au Congo, en Arménie et au Rwanda. Donc si je devais... Oui, il y a plein d'autres pays, bien sûr, mais ça, c'est les exemples les plus frappants que nous avons sous les yeux. Donc, si je devais dire un mot, c'est que nous devons tous nous sentir concernés par cette cause qui est vraiment très grave pour le coup. Et il faut tous rester unis face à ce genre d'actes pour ne plus jamais qu'ils se reproduisent et qu'ils s'arrêtent immédiatement. Je vous remercie.
Et dernier mot, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça aujourd'hui, là? C'est par rapport à l'actualité récente des bombardements à Rafah?
Je peux parler?
Oui, vas-y.
Ça fait 2-3 semaines, qu'on prévoyait ça. Ça vient d'une initiative lycéenne, donc de nous, d'élèves de la cité scolaire André Chanson. Parce qu'on est conscient que ça fait très longtemps que cette situation dure. Cette année, ça va faire 76 ans, uniquement pour le cas de la Palestine. Bien sûr, on intègre bien d'autres pays et bien d'autres peuples. Et pour nous, c'est important de se mobiliser, parce que bien que certains d'entre nous soient mineurs, bien qu'on soit lycéens, ça ne nous empêche pas d'avoir une conscience politique et au-delà de ça, une conscience humaine avant tout. Ça nous paraissait essentiel de faire cette action au moins une fois dans l'année pour pas qu'on oublie tout simplement, pas passer sous silence ce qui se passe parce que passer sous silence, ce serait être complice de ce génocide, de ces exterminations de masse, de ces crimes de guerre et pour nous, ça nous paraissait fondamental.
Rwanda, Congo, Arménie, Palestine, on est tous unis. Rwanda, Congo, Arménie, Palestine, on est tous unis.
Voilà le blocus donc des lycéens au Vigan. N'hésitez pas, si vous êtes dans les parages, à passer leur apporter votre soutien, puisque cette jeunesse a de la belle énergie à revendre, mais je pense qu'il serait très heureux d'avoir aussi le soutien des adultes qui passent à côté. Je termine donc en complétant que un article sur le journal Le Point, justement avec un G, se consacrera à ce blocage, puisque le journaliste était présent sur place. Je lui ai piqué un petit peu de son au début de ce reportage. Et on peut y lire notamment que ce soir, au rond-point de la Lyre à Montpellier, une action est prévue aux alentours de 18h pour étendre des banderoles et partager une soupe et discuter de la situation et de la mobilisation à venir.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein.
Des nouvelles du monde.
On va s'intéresser aux nouvelles modalités de l'assurance chômage qui viennent d'être présentées par notre Premier ministre ce 26 mai. Et on va notamment s'intéresser au durcissement des conditions d'accès à cette assurance chômage et à l'indemnisation qui va avec. Le durcissement des règles est prévu pour être effectif au 1er décembre. Le coup près est tombé donc juste avant que ne commence la période de réserve précédente, les européennes, du 9 juin, deux semaines au cours desquelles le gouvernement devra s'abstenir de faire des annonces. C'est donc au dernier moment que Gabriel Attal a dévoilé ce tour de vis prévu pour l'assurance chômage. Le Premier ministre justifie d'ailleurs ses conditions plus strictes pour la poursuite de ce fameux Eldorado que serait le plein emploi et une volonté de valoriser encore plus le travail. Ces nouvelles mesures, je vous le disais, seront prises par décret le 1er juillet pour une entrée en vigueur au 1er décembre. Alors tout d'abord, c'est la durée pour être indemnisé qui sera plus longue. Donc un premier changement d'importance pour ce qu'on appelle les conditions d'affiliation, c'est-à-dire les conditions qu'on remplit pour pouvoir avoir droit aux allocations chômage. Il faudra maintenant avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois pour pouvoir être indemnisé, donc pour ouvrir les droits comme on dit vulgairement, alors qu'on était jusque-là à 6 mois de travail au cours des 24 derniers mois, donc 910 heures pour les 24 derniers mois, ce sont les règles qui sont encore en cours actuellement. Déjà en 2019, au cours de la réforme, ces conditions d'affiliation avaient été resserrées. Avant, c'était 4 mois d'activité sur 28 mois qui permettaient d'ouvrir des droits au chômage. On est donc passé à 8 et à 6 et bientôt donc à 8 avec des durées plus courtes pour comptabiliser tout cela. Ensuite, deuxième mesure et une conséquence de la mesure précédente, c'est la durée pendant laquelle on peut être indemnisé. La durée d'indemnisation maximale va passer de 18 à 15 mois. Dans son interview, Gabriel Attal a précisé que cette durée d'indemnisation était diminuée au regard des conditions actuelles. Cette modulation, ça découle d'un principe qui s'appelle la contracyclicité. C'est une réforme qui est appliquée depuis février 2023 et qui prévoit de réduire la durée d'indemnisation des nouveaux entrants à l'assurance chômage en cas de conjoncture favorable. La conjoncture favorable, c'est ce qui correspond à un taux de chômage en dessous des 9%. Ce dernier est actuellement à 7,5% et donc ouvre... le principe de contracyclicité s'applique donc. Si, à l'inverse, le marché de l'emploi venait à se dégrader, un complément de fin de droit pourrait venir prolonger les droits. Le gouvernement annonce d'ailleurs renforcer cette fameuse modulation si le taux de chômage descend encore en dessous des 6,5%. En gros, plus le taux de chômage baisse, et plus moins on peut être indemnisé, ce qui va certainement aussi favoriser les contrats très courts et donc faire baisser peut-être aussi de manière un petit peu artificielle justement le fameux taux de chômage, à voir comment tous ces chiffres vont arriver à s'imbriquer ensemble. Le but non caché d'ailleurs assez avoué, c'est de faire des économies pour l'UNEDIC. D'après un chiffrage présenté par le ministère du Travail aux partenaires sociaux, toutes ces mesures devraient dégager 3,6 milliards d'économies pour l'UNEDIC. C'est l'organisme qui est en charge de la gestion de l'assurance chômage. L'exécutif s'attend également à ce que 90 000 personnes supplémentaires retrouvent un emploi suite à ces modifications de conditions. Par ailleurs, Matignon voudrait aussi étendre le système du bonus-malus. C'est un système qui a été mis en place en 2021 pour encourager les entreprises à avoir moins recours aux contrats courts. Actuellement, 7 secteurs d'activité sont concernés. Une concertation est en cours avec le ministère du Travail pour identifier 2 nouveaux secteurs à étendre dans ce système de bonus-malus. Alors du côté des seniors, certains s'inquiètent déjà. L'âge à partir duquel on peut bénéficier d'une indemnisation plus longue va passer de 53 ans à 57 ans, avec une durée plafonnée à 22 mois et demi. Aujourd'hui, on est à 27 mois. En contrepartie de cette mesure qui vient venir donc fortement assécher les revenus justement de chômage de certains seniors, comme on dit, le Premier ministre a annoncé un bonus financier, donc pour compenser éventuellement la reprise d'un emploi qui serait moins bien rémunéré que celui qu'on avait auparavant. Ce bonus financier, donc pour les personnes de plus de 57 ans, il explique, pourrait par exemple cumuler une partie de leur allocation chômage avec un nouveau salaire si le nouvel emploi est moins bien rémunéré que le précédent. C'est dans Capital qu'il explique tout cela. Ce bonus pour les seniors ferait son arrivée du côté, le 1er décembre 2024 et serait financé par l'UNEDIC. Au niveau des premières analyses, suite à toutes ces révélations, dans Le Monde, on évoque une réforme au goût amer. Une réforme qui est annoncée alors que l'impact des 2 précédentes réformes n'a, pas pleinement été évalué. Cette méthode donne l'impression que le gouvernement avance à tâtons sans nécessairement prendre en compte les conséquences sociales qui laisseront un goût amer à nombre de chômeurs. La finalité est également discutable puisque les nouvelles règles doivent permettre de pouvoir, je vous le disais, 90 000 postes. C'est pas non plus ouf. L'objectif paraît bien peu ambitieux donc en regard des enjeux financiers qui sont affichés. Les économies attendues, je vous l'ai dit aussi, ça serait 3,6 milliards d'euros par an en estimation. Ça fait environ 10% du montant total des allocations versées par exemple en 2023. De quoi donc interpréter cette réforme plutôt comme une façon de trouver dans l'urgence des marges de manœuvre budgétaires plutôt que d'apporter des solutions pérennes au chômage de masse. Et enfin, se pose la question de la justice sociale de cette réforme qui va affecter en premier lieu les jeunes et les plus précaires, que ce soit les intérimaires, les saisonniers ou les salariés en contrat court. S'attaquer à ce qui serait une prétendue générosité du système, c'est aussi oublier qu'un peu moins de la moitié des personnes sans emploi, d'ailleurs, ne touchent aucune indemnité. Le nombre de non-perçus est... d'allocations non perçues est très très grand pour cette catégorie de personnes. Et en contrepartie, l'effort qui est demandé aux employeurs pour apporter leur contribution à l'amélioration du marché de travail n'est à ce stade qu'une promesse. D'éventuels durcissements de sanctions contre l'abus des contrats courts, par exemple, pour l'instant, c'est renvoyé à un futur texte dont les contours restent encore très flous. Et enfin, si on vient à ce dispositif qui consiste à préserver le salaire des chômeurs les plus âgés, qui accepteraient de reprendre donc un travail moins bien payé que leur ancien poste, eh bien ça risquerait d'inciter les employeurs à recruter des salariés expérimentés, donc les fameux seniors, à bon compte, puisque le tout serait financé par la collectivité avec ce fameux système de bonus. Le gouvernement accélère sur la route du plein emploi, au risque de confondre vitesse et précipitation, conclut ce petit billet trouvé dans les colonnes du Monde.
C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
On part du côté de l'Assemblée Générale du groupe Total Énergie qui a eu lieu ce vendredi 24 mai. Des militants écologistes ont bousculé ce rassemblement annuel des pontes de Total Énergie. Donc un rassemblement en signe de protestation contre l'action climatique délétère de ce géant énergétique. Les forces de l'ordre ont bien évidemment réprimé la manifestation qui s'est tenue dans le 15e arrondissement à Paris devant les locaux d'Amundi qui est un des premiers actionnaires de Total Énergie. Forte de plusieurs centaines de personnes, dont plusieurs députés, cette foule donc de manifestants s'est retrouvée encerclée à partir de 11h du matin au pied de la haute tour de verre qui héberge la société. À l'heure où ce texte a été écrit, c'est dans les colonnes de Libération, 173 personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police, et Libération précise que 10 agents de sécurité du bâtiment ont été blessés, dont 9 transportés à l'hôpital. Parmi les manifestants qui ont été arrêtés, par exemple Marion Beauvallet, qui est candidate insoumise au scrutin européen, et qui expliquait justement, ce qui explique la réaction sur X de Jean-Luc Mélenchon. Cette réaction, c'est un signal fort, la bonne humeur des actionnaires de Total est protégée, le futur et la jeunesse sont réprimés. Telle est la Macronie, on a raison de se révolter. Dans la matinée, c'est Greenpeace qui avait ouvert le bal pour chahuter donc cette Assemblée Générale de Total Énergie, ou qui se trouve, elle, dans le quartier d'affaires de la Défense. Les militants de Greenpeace sont montés sur la façade, tout équipés de leur matériel d'escalade, pour déployer une banderole massive sur la façade d'un centre commercial, avec écrit donc « Wanted », façon western un petit peu, sur la tête de Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Il est écrit ceci: la société civile recherche le dirigeant de l'entreprise française la plus polluante qui se fait des milliards au détriment de la planète et des populations. Le montant de la prime est de 20 milliards d'euros. Un petit rappel et clin d'œil au résultat financier record justement du groupe en 2023. Ils ont fait 20,5 milliards d'euros de bénéfices nets. Voilà de quoi donner le ton. Donc ça, c'était l'action de Greenpeace le matin avant l'ouverture de l'Assemblée Générale de cette major pétrolière qui est la quatrième mondiale et la plus grosse entreprise du CAC 40 si on prend en compte les bénéfices. Les actionnaires de Total Énergie, réunis pour cet AG, devaient se prononcer notamment sur la stratégie climat du groupe. Certains investisseurs réclamaient une transition d'ailleurs énergétique plus ambitieuse et ils devaient aussi revoter leur PDG qui semble être pour l'instant élu à vie. Une grand-messe donc annuelle désormais automatiquement perturbée par ces militants du climat. Ils se sont donc éloignés de l'impressionnant dispositif policier qui a été déployé à la Défense pour sécuriser tout le quartier. Plutôt difficile d'y accéder. Et c'est pourquoi donc ces collectifs écologistes, mais aussi anticapitalistes, féministes ou de défense des droits humains, ont mené des actions un peu partout dans Paris pendant toute la journée pour mettre la pression sur la multinationale. Et donc cette action devant les locaux d'Amundi dans le 15e arrondissement, où une camionnette blanche s'est garée dans la matinée dans la rue. Des enceintes, du matériel sont sorties par les militants et en quelques minutes, ceux-ci bloquent la route adjacente avec des cartons en installant des banderoles sur tout le parvis. Le but était bien de se mobiliser contre Total, mais avec un tel dispositif policier, c'était beaucoup trop lourd à la défense. C'est un chercheur physicien au CNRS qui fait partie du collectif des scientifiques en rébellion qui était présent ce matin-là, Irénée Frérot. Il explique qu'en se retrouvant donc devant Amundi, on dénonce ceux qui financent Total, car le consensus scientifique est très clair. Il y a assez de sites fossiles existants déjà pour dépasser les objectifs de l'accord de Paris. Je vous rappelle que l'objectif de l'accord de Paris, c'est sur les émissions de gaz à effet de serre. Le plus ambitieux de ces scénarios viserait à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Il ne faut donc plus ouvrir aucun champ d'extraction d'énergie fossile, plaide ce chercheur, alors que Total Energy a annoncé augmenter sa production de gaz de un tiers d'ici 2030. Ils nous disent que le gaz est une énergie de transition, mais c'est faux, c'est du greenwashing, continue donc ce scientifique en colère. La fête s'est terminée avec l'arrivée sur place des forces de l'ordre et le début de la NAS, une petite histoire d'employade aussi autour des lances à eau. Et donc, je vous le disais, à ce jour, presque 200 personnes se sont retrouvées pour l'instant, eh bien, mises en garde à vue.
Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
Petit extrait d'OSS 117 au Brésil, hein, pour ceux qui douteraient de l'origine de ces citations. Et oui, au Brésil, on y va justement, puisque c'est là aussi que Total, justement, compte bien continuer de faire de beaux forages, et ce, en collaboration avec les entreprises pétrolières sur place. Total Energy lance l'extension de 2 champs pétroliers au Brésil, à l'envers donc de toutes les recommandations scientifiques. Total ainsi que le groupe brésilien Petrobras, un autre géant du pétrole, annonçait donc hier étendre la production des champs qui s'appellent Atapu et Sepia. On est au large de Sao Paulo pour le premier et de Rio de Janeiro pour le deuxième. Peu importe donc les fameuses contestations militantes ou les attaques en justice, Total Energy continue ses activités nocives pour le climat. C'est dans les colonnes du journal Reporter que l'on peut lire ce petit résumé. Total et son homologue brésilienne Petrobras ont décidé de lancer l'extension de 2 champs pétroliers au Brésil. Et dans le communiqué, on peut lire que, justement, Total est en forte croissance dans ce pays d'Amérique latine. Ils sont plutôt contents donc, de ce qui se passe, eux. Total Energy, avec l'opérateur Petrobras et leurs partenaires, lit-on dans le communiqué officiel, ont pris la décision finale d'investissement pour les secondes phases des développements de Atapu et Sepia. Ces 2 champs sont exploités donc par Total Energy et Petrobras depuis 2020 et 2021. Une capacité de production de 150 000 et 180 000 par jour, respectivement. Et donc, avec cette deuxième phase, ça devrait monter à 225 000 barils par jour, par champ, pour cette seconde phase du développement, avec un démarrage effectif prévu à partir de 2029, mais qui vient donc, vous l'entendez, d'être voté officiellement en Assemblée Générale. Total Energy détient respectivement 15 et 17% des parts dans ces 2 champs, Atapu et Sepia, qui sont tous les 2 opérés par Petrobras, donc pour l'infrastructure. Mais il y a aussi d'autres groupes présents. Total n'est pas le seul dans la course. Il y a aussi Shell, qui a 16% de Atapu, et Petronas et Qatar Energy, qui détiennent chacun environ 12,5% du champ Sepia. Lors de cette fameuse assemblée générale de ce vendredi, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, avait redit devant les actionnaires qu'il était nécessaire de mettre en production 2 nouveaux champs pétroliers, cela alors même que l'Agence internationale de l'énergie affirme qu'aucun nouveau projet de champs gaziers ou pétroliers n'est nécessaire, au-delà de ceux qui ont déjà été approuvés en vue de leur développement. La semaine passée, d'ailleurs, Total Energy a aussi annoncé le lancement d'un nouveau projet pétrolier situé au large de l'Angola, dont la production devrait débuter en 2028, avec là un objectif de 70 000 barils de pétrole par jour à atteindre. Le groupe est ainsi le numéro 2 mondial des méga-gisements fossiles, ce qu'on appelle les bombes carbone, qui ont le plus grand potentiel d'émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie.
Allez, rembole tout ça, Rémi, c'est écœurant à la fin.
On revient en France avec peut-être la pire régression de ces 10 dernières années, et c'est sur le droit de l'environnement qu'on s'intéresse. Ça vient d'être voté à l'Assemblée. C'est encore un reporter qui nous pourvoit cette petite brève. Un recul majeur, en tout cas, donc, dans la législation environnementale, tout cela au nom de la fameuse simplification administrative. La loi d'orientation agricole, qui est en ce moment en cours d'examen à l'Assemblée nationale, vient de dépénaliser les atteintes aux espèces et aux habitats protégés. Ça se fait dans un amendement à l'article 13, qui a été voté par la majorité, et le gouvernement propose ainsi de distinguer les atteintes intentionnelles aux espèces protégées des actes de bonne foi. Alors là, c'est quand même une bonne blague. Donc selon si c'était intentionnel ou de bonne foi que vous avez détruit l'environnement, vous ne serez pas pénalisé pareil. Donc l'amendement prévoit une présomption de non-intentionnalité. Par exemple, si les personnes suivaient une obligation légale ou réglementaire ou appliquaient un plan de gestion forestière déjà précédemment établi, mais que cela ne contenait rien sur les espèces protégées. En somme, si tu ne savais pas, c'est pas grave. Il semblait pourtant que nul n'était censé ignorer la loi. Visiblement, ce n'est pas le cas pour la loi environnementale. C'est le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui a expliqué vouloir simplifier la vie des agriculteurs. L'objectif, pour ce rapporteur de la loi et le député Renaissance Éric Girardin, c'est d'en finir avec le paradigme coercitif, dit-il, qui entoure trop souvent les activités agricoles et de rationaliser les normes. Concrètement, cet amendement donc fait craindre les pires régressions, vous l'aurez compris. France Nature Environnement explique que cela restreint considérablement la possibilité de sanctionner notamment la destruction d'espèces, d'habitats naturels ou de sites géologiques protégés. Il y a aussi les sites géologiques là-dedans. En effet, dans l'immense majorité des dossiers pénaux qui sont en cours, il est impossible de démontrer l'intention, seulement l'imprudence ou la négligence. Par exemple, alerte FNE, un chasseur qui abat une espèce protégée, qu'il aurait confondu avec une espèce gibier, un particulier qui provoque la mort d'une buse, par exemple en utilisant des produits phytopharmaceutiques contre des rongeurs, un forestier qui abat un arbre à cavité susceptible d'accueillir des chauves-souris dans une forêt où il y a un plan de gestion, mais aussi un industriel dont les éoliennes autorisées auraient causé la mort de mille enroyaux, tout cela ne pourrait plus être poursuivi, même s'ils n'ont pris aucune précaution et n'ont pas fait l'effort de se renseigner. Le message envoyé est donc assez clair, hein. Si atteinte à l'environnement il y a, la sanction sera faible. En cas d'atteinte irréversible à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées et d'habitats naturels, le préfet pourra toujours prescrire des stages obligatoires de sensibilisation aux enjeux de l'environnement, ce qui fera à mon avis bien rire, notamment les industriels. À l'Assemblée, les débats ont été houleux, hein. La députée écologiste Delphine Bateau a estimé que l'amendement était inconstitutionnel, en cela parce qu'il est contraire aussi à la directive européenne sur le droit pénal de l'environnement, mais également à la charte de l'environnement, et elle a déploré le fait justement que le Conseil d'État n'ait pas pu examiner, puisqu'il n'était pas dans le projet de loi initial et que c'était un simple amendement. Pour Morgane Piederrière, qui est responsable du plaidoyer et des relations institutionnelles de France Nature Environnement, c'est la pire régression des 10 dernières années. Cet amendement va bien au-delà des activités agricoles. Il envoie un message d'impunité à tous les porteurs de projets industriels, aux forestiers, aux chasseurs, et va concerner toutes les destructions d'espèces et d'habitats protégés.
Alors, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sûr que c'est un coup de fantomasse.
Ouais, je pense que c'est lui qui est derrière tout ça, c'est quand même terrible. Allez, on termine avec, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Une petite brève toujours dans les colonnes de reporters et qui s'intéresse à l'environnement des écoles, notamment en ville, et la pollution de l'air. C'est le programme Les rues aux écoles, qui est un programme qui existe depuis un petit moment et visiblement il fonctionne. C'est donc une bonne nouvelle qui a été publiée par les associations Respire et Ergone. Les mesures de ces associations montrent donc une baisse sur les concentrations de dioxyde d'azote qui pourrait aller jusqu'à 30% en moyenne. Les associations ont mesuré donc en temps réel la pollution aux abords de 10 établissements scolaires. Ils ont mesuré notamment le dioxyde d'azote et les particules fines et ça a été fait principalement à Paris et banlieue. Cela afin de constater les effets justement d'un aménagement qui s'appelle rue aux écoles. C'est tout simplement la piétonnisation des rues aux abords d'une école qui peut s'accompagner de l'arrêt du trafic routier partiellement, donc le temps des horaires d'ouverture de l'école, ou totalement. Les rues aux écoles, ça marche pour faire baisser la pollution, se réjouit donc Tony Renucci, qui est directeur de l'association Respire. L'association préconise aussi, suite à ces résultats, la généralisation des aménagements des rues aux écoles permanentes, et il voudrait un soutien gouvernemental pour ces aménagements. On rappelle que le dioxyde d'azote est un gaz irritant pour les voies respiratoires et que les enfants sont les premières victimes de la pollution de l'air qui tuerait ainsi 1200 jeunes par an en Europe. Ça a commencé en Belgique, ces initiatives rue aux écoles ou rue aux enfants ou rue scolaire, et ça se déploie un petit peu partout en France, notamment aussi à Lille et à Lyon. Et comme je vous disais, ça fera office de bonne nouvelle pour terminer ces infos dans la joie et l'espérance vers un avenir qu'on espère radieux. En tout cas, la jeunesse est là pour continuer à se battre et ça fait quand même chaud au cœur. C'est tout pour aujourd'hui, les nouvelles du monde. On se retrouve, jeudi. Je suis pas sûr. Bon, je vous dirai ça plus tard. En tout cas, bon après-midi, bonne soirée si vous nous écoutez en rediffusion. Et puis, à très vite.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.